Parlons musique, l'émission des chansons francophones, mais pas que. Et c'est sur Couleur FM 97.1. Cette semaine, Parole en musique rend hommage à Mano Solo, auteur-compositeur-interprète, disparu le 10 janvier 2010. J'avais eu le plaisir de le rencontrer à deux reprises en 2004 et en 2007. Et je vous propose donc les interviews réalisées à cette occasion.
Se réveille, tout le monde en sommeil, pour un jour de plus des années entières. Un oreiller empoigné, une nuit à se retourner, la sueur dans les cheveux, déjà la fatigue au bord des yeux. Je ne sais pas ce qui peut bien manquer à tous les feux que j'ai pu allumer. Pour me retrouver si froid chaque matin, encore une fois. Je sais bien que c'est la guerre et qu'aucun n'a son repos, mais j'ai jamais cru en l'enfer et la vie reste un cadeau. Se battre les 10 doigts pour le rêve d'une peau de satin n'a pas d'égal dans l'univers, au moins faisons le bien. D'une vie entière inutile, il n'y aura eu que l'amour qui brille. Peut-être bien mes petites chansons de merde, pour qu'on y croit. Tout un monde en sommeil, pour un jour de plus, des années entières. Un oreiller empoigné, une nuit à se retourner, la sueur dans les cheveux, déjà la fatigue au bord des yeux.
Je suis aujourd'hui avec Mano Solo. Alors on s'était laissé en 2003, juste après une année sabbatique. On se retrouve maintenant en 2007, alors beaucoup d'événements durant ces 4 ans. Alors tout d'abord, une sortie d'un album en 2005 qui s'appelait Les Animales. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cet album qui était un petit peu particulier ?
Bah justement, c'était un peu... C'est l'album de mon année sabbatique. Les Animales, c'est un album qui est très manosolien parce que je l'ai vraiment composé de A à Z, celui-là. J'ai tout maquetté chez moi. Les musiciens ont pratiquement joué que ce que je leur ai demandé de jouer, quoi. Alors que d'habitude, sur tous mes autres albums, les musiciens, ils apportent beaucoup, quoi. Moi, je donne des directions, des grilles, des thèmes, et puis après, je les laisse jouer, je les laisse amener quelque chose, parce qu'ils sont tous excellents, les musiciens, j'ai de la chance, tu vois. Et là, non, c'est un album que j'ai voulu, justement, comme ouais, j'avais eu un conflit avec les musiciens, j'avais envie de savoir un peu... Ouais, ce que je pouvais faire tout seul, véritablement. Et puis aussi, j'avais envie de faire un truc dansant. J'avais envie de faire un grand bal moderne sur scène. J'avais envie de beaucoup de musiciens pour pouvoir varier les plaisirs. Donc j'ai fait plein de musiques différentes. Et puis, c'est un album aussi qui avait été fait à l'époque, à moitié finalement, pour Juliette Gréco. Parce que j'avais entendu parler qu'elle cherchait des auteurs et tout ça pour un album. Et ça m'avait réveillé un peu de ma torpeur. Ça m'avait dit, tiens, écris pour Gréco. Et Gréco, ça lui avait plu, mais bon, il y a eu plein d'embrouilles encore de production qu'ont fait que mes chansons n'ont pas été sur l'album. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les chanter, quoi. Donc il y a la moitié de cet album, Les Animales, qui est aussi un peu une inspiration spéciale par rapport à tous les autres, puisque c'est des chansons que je n'avais pas écrites pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est que c'est là qu'on voit la connerie des journalistes qui pour des chansons que j'ai écrites pour une bonne femme de 65 ans, vont coller des métaphores que j'ai pas mis dedans. pour le faire dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est délirant, quoi. En fait, les journalistes, ils écoutent pas les chansons, tu sais, ils écoutent ce qu'ils ont envie, quoi. Ils ont des oreilles spéciales, ces gens-là. Des trucs, ils ont des traducteurs dans leurs oreilles qui traduisent tout comme ils ont envie de l'entendre.
Moi, je serais plus méchante, je dirais pas qu'ils traduisent tout comme ils veulent l'entendre, ils traduisent comme ils voudraient que les gens l'entendent.
C'est ça, ouais, ils voudraient un peu orienter, ils voudraient que les gens les croient, en fait. Ils voudraient être utiles à quelque chose, quoi. Le critique, il cherche à être utile, donc il veut qu'on le croie, donc il est prêt à fabriquer des belles histoires.
Les journalistes vous ont fait souvent beaucoup de mal, je crois.
Non, moi je trouve qu'ils se font plus de mal à eux-mêmes, ils font plus de mal à la presse qu'à moi. Moi je m'en branle, je les prends tous en fait. Là je provoque, mais c'est vrai en fait. C'est pas eux qui vont me faire du mal, c'est vraiment trop des... Tu sais, moi je suis tellement fier de moi. Ma vie, c'est un vrai roman. La vie de tous ces petits gras de papier là, qui font du pathos sur moi à 3,50 francs, c'est loin d'être un vrai roman. Ou alors c'est un roman pitoyable et chiant comme la pluie. Donc si tu veux, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Il faudrait que quelqu'un que je respecte écrive quelque chose qui me touche pour que ça me fasse du mal, tu comprends. Mais quand, pour moi, ces gens-là, ils n'ont aucune culture, ils sont là par opportunisme. Ils sont la plupart du temps dirigés non pas par leur goût ni par leur cerveau, mais par la promotion et par leur rédac chef. Tu vois, donc c'est pas des... Ils sont très susceptibles, c'est marrant, comme si c'était des artistes. Chaque fois qu'on les attaque, ils se défendent comme des malins, des malades, ou alors ils veulent pas se défendre. C'est le journaliste musical, je parle, parce que je te parle pas de la presse en général, moi je te parle d'une certaine presse, c'est-à-dire les gens que moi j'ai en face de moi la plupart du temps. Ce ne sont pas des journalistes. Moi, je suis fils de journaliste. Je ne vais pas te dire que je n'aime pas les journalistes. Tu vois, j'ai grandi dans le journalisme. J'ai grandi dans des rédactions. J'ai grandi avec des vrais journalistes, des gens qui réfléchissaient, qui n'étaient pas en train de recopier des argumentaires et de signer de leur nom, quoi.
Alors justement, j'ai lu un petit peu votre site. Vous attaquez aussi actuellement, et je vous rejoindrai un petit peu, tous les sites web où on nous inonde de tas d'adresses web, on recherche. Effectivement, on retrouve toujours sur les mêmes moteurs de recherche, sur les mêmes personnes. On s'aperçoit qu'on formate effectivement un petit peu notre pensée et on ne nous laisse pas aller où on veut. Enfin, pour certains, puisqu'il y en a d'autres qui cherchent. Alors, est-ce que là aussi, on n'est pas en train de formater, même par le web, alors qu'on aurait pu croire que c'était un univers tout à fait différent?
Non, parce que le problème du web, c'est que la masse attire la masse. C'est-à-dire que le plus vu va être encore une fois le plus vu. Donc, c'est un système qui ne laisse aucune place à l'avant-garde, en fait. Parce qu'évidemment, l'avant-garde par définition, c'est pas ce qui va plaire à tout le monde dans l'instant. C'est ce qui plaira peut-être à tout le monde demain, quand ils auront eu le temps de comprendre. C'est ça, l'avant-garde. Donc, Internet ne sera jamais un média d'avant-garde, par exemple, puisque ce qui est vu est promu par la masse. Donc, on a quoi? La même chose qu'en télé, en fait. Les gens déposent sur YouTube, de toute façon, à 90% des produits qu'ils ont piqués sur les télés, sur les médias déjà existants. C'est pas du tout des créations que... La majorité n'est pas dans la création, dans la créativité, mais plutôt dans la diffusion. Internet, c'est un formidable diffuseur. Et ce que les gens s'autodiffusent, c'est pas, ça change pas du top 50, en fait. C'est là aussi que des gens comme moi, il faut qu'on relativise nos pensées sur qu'un tel du top 50, c'est de la merde ou je sais pas quoi. Parce que, en fait, les gens, ils aiment ça. On voit bien, quand ils ont le choix, ils recréent ce top 50. Donc, peut-être, après, les raisons pour lesquelles ils sont amenés à aimer ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'on peut dire qu'ils ont été matraqués, qu'ils n'ont pas eu le choix en cours de route et tout, mais moi, j'arrête un peu d'être un peu dénigrant sur ce genre de phénomène, parce que s'ils aiment ça, tant mieux. Tant mieux. Le problème maintenant, c'est que ça ne nous permet pas à nous de vivre. Parce qu'avant, que les gens aiment le top 50, c'était tant mieux pour moi, par exemple. Parce que, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une maison de disques, avec le top 50, elle accumulait de l'argent qu'elle pouvait dépenser à développer des jeunes talents comme moi, comme tous les gens qui ont été signés ces 50 dernières années en France, quoi. Par contre, Internet fait la même chose en termes de diffusion, mais pas en termes de production. C'est-à-dire que Camini, il a eu un gros succès, ça ne sert à personne, ça ne sert qu'à lui. C'est ça, Internet, en fait. C'est un média qui ne crée pas de synergie industrielle ni de synergie sociale. C'est-à-dire que si effectivement un bonhomme va y réussir, il va réussir tout seul. Ce qui est improbable, on le voit, parce que, puisque finalement, sur 5 années de haut débit, il y a eu un Camini. Alors que si on fait la comparaison avec ce qui sort des maisons de disques, qui, elles, d'ailleurs, ne produisent plus grand-chose, parce que la situation est quand même maussade, mais il n'y a pas photo entre ce qui émerge du net et ce qui émerge du circuit traditionnel. Donc on est encore en train d'entretenir un leurre sur le fait que tout viendra demain d'Internet, alors qu'il n'y a aucune structure de production sur Internet. Moi, si je veux trouver de l'argent pour aller en studio demain, je ne trouve pas sur Internet. Même si moi, par exemple, j'ai fait une souscription, non pas pour faire l'album, mais pour payer la promo, parce que j'ai pas été fou, parce que je sais très bien, j'ai fait quand même la souscription pour faire un test. J'ai eu 2800 souscripteurs pour un type comme moi qui a potentiellement 150 000 personnes qui achètent ses disques. C'est très peu, 2800 sur 150 000 qui était un potentiel de base. Donc il faut arrêter de se leurrer. Les gens ne nous aideront pas à travailler. Moi, sur Internet, quand... je vais sur des sites, tu sais, où il y a 100 000 connexions par mois, et ils râlent tous, ils veulent une licence globale, et ils sont tous là à pester, à s'inventer des systèmes bâtards pour payer les musiciens et tout. Et quand tu leur dis, mais les mecs là, vous êtes 100 000 par mois sur ce forum à discuter de comment accéder à la gratuité, alors que pourquoi vous vous associeriez pas tous? Pourquoi vous ne feriez pas tous, vous, les 100 000, vous mettez 10 euros par mois, putain, ça fait un sacré budget mensuel pour produire de la musique quand même. Et là, vous produisez la musique que vous avez envie. Et 100 000 ici, 100 000 là, 100 000 par là, 100 000 par là, c'est-à-dire qu'ici, on produit du reggae, ici, on produit de la chanson française, ici, on produit je ne sais pas quoi. Moi, je suis prêt à payer 10 euros par mois dans des pôles de production indépendants les uns des autres, sur lesquels, en plus, moi, en tant qu'actionnaire, du coup, puisque je verse 10 euros par mois, j'ai accès à tout le catalogue, et puis j'aurai aussi un poids pour l'élection du directeur, du chef de produit, enfin pas du on s'en fout du directeur artistique et ainsi de suite, sur même les salaires de l'équipe, puisque c'est quand même moi qui fais partie, ça serait une autogestion Internet. Dès que tu parles de comme ça à tous ces gens qui se passionnent toute l'année pour réclamer la licence globale, dès que tu leur parles comme ça, plus personne ne discute avec toi. Alors que ben parce que c'est un argument où il faudrait que eux s'engagent à quelque chose, tu vois, qu'ils participent et qu'ils se sentent concernés dans un développement citoyen de la musique, quoi. Et alors là, il n'y a plus de citoyens, tu vois. Ils sont tous persuadés d'être de gauche et de niquer le capital, alors qu'en fait, non, ils accompagnent le capital dans son libéralisme forcené. Le MP3, c'est l'outil du libéralisme. Ça fait vendre des bagnoles, des assurances, de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je vais à ma banque, je te jure. À ma banque, si je prenais une assurance, on me filait 500 MP3 gratuits. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi, tu vois. Est-ce que moi, je dois servir à vendre des assurances? Est-ce que ma production doit se retrouver là, quoi? D'ailleurs, est-ce que j'y suis, moi, dans ces 500 MP3? Je n'en sais rien. D'ailleurs, en plus, ma maison de disques ne me prévient pas de ce qu'elle fait de tout ce matériel numérique que moi, je ne peux pas pister. Et ainsi de suite. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on se fait niquer. Nous, les artistes, en ce moment, on se fait niquer. On vend des iPods avec 10 gigas ouais, tu peux mettre 10 gigas, c'est-à-dire c'est à 99 centimes le morceau, tu vois, ça te fait 10 000 euros, quoi, que t'as mis dans ton iPod. Putain, ça devient un lingot d'or, quoi. J'en connais pas. Personne ne va mettre 10 000 euros de contenu dans son iPod. C'est un leurre et c'est une hypocrisie. Donc, on te vend l'outil pour télécharger. C'est clair et net. On te vend l'outil pour tricher, bien sûr. Mais sans même que t'y penses. Parce que moi, par exemple, j'ai un abonnement à Free. Free me dit clairement, vas-y mon gars, je te donne accès à des serveurs de news. Et sur les serveurs de news, je trouve, et de quand je pars de Free et que j'arrive sur le serveur de news, personne en chemin m'a dit que ce que je suis en train de faire est complètement illégal et ne respecte rien ni personne. C'est-à-dire que moi, je le dis, je télécharge des films américains à tire-l'arigot très souvent. Tu vois, quand je m'emmerde le soir, je télécharge un film vite fait sur un serveur de news parce que ça va super vite. J'ai pas honte parce que c'est un produit américain et qu'ils se font de la thune et que j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui les ruine. Ils ont qu'à se faire leur blé chez eux. Ils le font très bien. Ils en font assez chez eux. Et en plus, même les films américains, ils viennent les tourner avec des subventions européennes. Dès que t'as un acteur français dedans, et hop, Bruxelles a payé je sais pas combien, quoi. Et puis, ou alors ils viennent les tourner à Prague parce que c'est 100 fois moins cher que chez eux. Puis en plus, ils ont des subventions pour les tourner là. C'est un truc de... Ils savent venir nous piquer notre pognon et en plus nous bouffer le marché du cinéma français. Donc moi, quand je télécharge un film américain, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que télécharger un artiste français, là, tu le ruines. Parce que nous, les boîtes de production en France, elles sont plus que des boîtes à lettres de boîtes de production production américaine. Donc ils s'en foutent de ce qu'ils produisent. Ils s'en foutent de produire un Mano Solo ou alors de produire du disco tout pourri. Ils n'en ont rien à branler. L'important, c'est qu'ils produisent quelque chose de français pour avoir l'excuse d'être implantés chez nous. Donc nous, la diversité, elle crève parce que bientôt, on aura des DA dans les maisons de disques et on n'en a rien à foutre d'un produit culturel. C'est pas vrai partout. Il faut arrêter de diaboliser la maison de 10, c'est pas l'ennemi du tout. Sans elle, il n'y a plus de diversité dans ce pays. Tu vois, il faut arrêter ce discours que c'est tous des pourris, c'est pas vrai. Moi j'ai bossé avec. En plus, une maison de 10, tu sais, c'est 50 prolos et puis 2-3 pourris. Tu vois, donc il faut arrêter de se focaliser sur 2-3 pourris dans la major, alors qu'elle représente de l'emploi pour des dizaines de personnes. Et il y a un moment où il faut arrêter cette démagogie antisociale, tu vois. Comment on peut pleurer pour les chômeurs de Moulinex et pas pour ceux de chez Warner? Moi, je comprends pas, il y a un drôle de truc, parce que c'est les mêmes personnes, c'est la même catégorie sociale de gens qui auront du mal à retrouver du boulot demain, et ainsi de suite, qui sont, tu vois.
On pense qu'aux têtes, là.
On pense qu'aux têtes en permanence. Quand on parle de la musique, on te saoule avec... tous les ans, on fait une espèce aussi de truc dangereux, moi, je trouve, qui est de donner les plus gros chiffres de la SACEM, tu vois. C'est Johnny et Goldman. Bah, il y a longtemps qu'on le sait que Johnny et Goldman, ils touchent le pactole. On n'en a rien à foutre. Même, bien sûr, sans rien foutre. Mais surtout Goldman, il ne faut rien. Tout le monde, c'est le roi des macros. Enfin, je ne veux pas l'insulter, mais c'est ça. Quand tu es auteur, tu es macro, tout le monde travaille pour toi, tu relèves les compteurs, quoi. Donc, Goldman, bien sûr, il est... Mais tu vois, on pollue la vision de notre milieu avec ce qui brille. Alors que, en fait, le véritable paysage, il n'est jamais en télé. Le paysage culturel qu'on voit sur scène dans ce pays, dans tous les festivals, dans toutes les salles comme ici aujourd'hui, et partout où moi je passe, et tous les groupes que j'ai en première partie, ou moi dont j'ai fait la première partie, ou ainsi de suite, tout le circuit que je vois depuis 15 ans, il n'est jamais en télé. Le paysage audiovisuel français n'est pas représenté dans les médias. Il y a une certaine frange de commercialité qui est représenté dans les médias.
Me disent tout et rien, c'est ta bouche qui cavale et qui s'emballe, je ne fais rien. Si tu voyais toutes les couleurs que la nuit donne à mes fantasmes, tu verrais qu'au fond de mon cœur, c'est pas vraiment un palace, mais qu'on y a fait les poussières, et si tu fais pas trop la fière, il reste encore une grande place, juste à côté du cimetière. Ravage les nuits que je passe à tes côtés dans la lueur d'une fumée que rien n'efface. Si tu savais le nombre d'heures où nous sommes face à face, si tu savais tous les bonheurs auxquels je voudrais laisser la place. Si tu voyais toutes les couleurs que la nuit donne à mes fantasmes, tu verrais qu'au fond de mon cœur, c'est pas vraiment un palace, mais qu'on y a fait les poussières. Et si tu fais pas trop la fière, il reste encore une grande place, juste à côté du cimetière. Mon chien le long du long mur du cimetière pontant. Je rentrais, je télécharge des films, n'importe quoi pour oublier le crime. De n'avoir des armes que pour lutter, et de ne pas savoir tout simplement
sur mes seins. Ce n'est rien, mais c'est bien. Je ne dis rien, je ne fais rien.
C'était Palace, extrait de In the Garden. Alors après, il reste nous, les radios associatives. Mais bon, on nous tire dessus aussi à boulet rouge, donc on ne sait pas encore combien de temps on va vivre. Mais c'est vrai que nous, on est dans la même démarche, enfin je me dirais dans la même démarche que vous, dans le sens où on essaye de promouvoir ceux qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Mais c'est pas un travail facile non plus, parce que tout le monde est formaté, et on nous reproche des fois de passer des gens qui ne sont pas connus. Mais c'est pas le but de notre radio.
T'imagines, je vais pas la citer, mais... Une animatrice sur France Inter dont le rôle, c'est de faire découvrir des jeunes talents. Le nouveau directeur, quand il est arrivé, il lui a dit « Votre émission, elle est pas mal, mais ça manque de stars. » C'est carrément, le mec, il comprend même pas le concept d'une émission, quoi. C'est un truc de fou. C'est...
Oui, on assiste actuellement à une parodie, je vais dire, dans les médias. Si on n'est pas star, on n'est pas connu. Si on n'est pas connu, donc on ne peut pas passer à la télé, on ne peut pas passer dans les radios. Alors c'est encore plus grave quand c'est des radios nationales, parce que ça serait quand même à eux de promouvoir tous les artistes, quels qu'ils soient.
Bah, ils en promeuvent aussi, mais c'est toujours les mêmes, si tu veux. Il y a une espèce de... Les artistes France Inter, il y en a beaucoup, finalement, au long de l'année... Tu vois, Non, c'est pas vrai. T'as des gens comme Ridan qui seraient jamais arrivés sans France Inter, tu vois. Et puis, j'ai pas d'autres noms. Mais il y en a plein. Il y en a au moins deux par an. Des gens qui sont... Même moi, j'ai été très, très promu par France Inter à l'époque. Non. Bien avant, j'étais en playlist sur France Inter. France Inter m'a toujours quand même soutenu... Normalement, je dirais, ils ne sont jamais passionnés pour Mano Solo, ils n'ont jamais été partenaires, mais ils ont fait leur boulot avec moi, je pense, à mes débuts, avec Foulquier. C'était Foulquier, mais il n'y avait pas que lui. Enfin, France Inter, maintenant, ils ont un parti pris, c'est-à-dire qu'ils aiment bien le easy listening, alors on ne va pas leur en vouloir, c'est chaque radio, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, s'ils ont envie d'avoir une ligne comme ça... Moi, je sais que Mano Solo, c'est quelque chose d'agressif, finalement, même quand je fais des chansons douces, si tu veux, parce que c'est des chansons qui t'interpellent. Si tu veux, tu as toujours l'impression que quelqu'un te parle, en fait, alors que la plupart des gens jouent un rôle dans leurs chansons. Donc, on peut passer leurs chansons, et le rôle, s'il ne nous intéresse pas, ne nous interpelle pas. C'est-à-dire que c'est comme une télé allumée qu'on ne regarde pas, ces chansons, la plupart du temps. Le easy listening, c'est ça, quoi. C'est une télé allumée qu'on ne regarde pas et qu'on... On peut survoler, quoi. Alors que Mano Solo, ça prend la tête. Tu peux pas mettre Mano Solo au milieu de... En musique de fond ou même entre deux chanteurs, je dirais, naïfs, pour pas être méchant.
Alors, je voulais vous parler quand même de votre album In the Garden. Alors, c'est étonnant pour Mano Solo, un titre en anglais. Moi, ça m'a surpris de votre part.
Bon, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est vraiment... On a cherché, puis... Puis je trouvais pas, puis j'avais pas envie de prendre un bout de parole, quoi, un bout de titre de chanson. J'avais pas trouvé un truc poétique qui me plaisait, ou une image, ou une provocation, rien, quoi. Je sais pas, je trouvais rien. Et puis c'est, je sais pas, c'est tombé. Where is Mano? Mano is in the garden. Ça faisait un peu snob, techno-snob qui va à l'école, quoi. Je sais pas, ça m'a fait rire. Et puis voilà, c'est resté parce que aussi l'album, on l'a fait au rez-de-chaussée, tu vois, pratiquement dans mon jardin. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans une pièce qui a la lumière du jour qui donne sur le jardin. Voilà, quoi, l'album a poussé en même temps que mes tomates. Tu vois, c'est un peu ça.
Alors comment il s'est construit justement cet album? Parce que bon, moi je l'ai écouté. J'ai aimé certaines chansons plus que d'autres. Alors évidemment, j'ai bien aimé celles qui étaient douces, mais celles qui étaient douces, en fait, n'étaient pas forcément les plus douces. Comment vous l'avez construit, celui-là, tout seul, avec les copains? Comment ça s'est passé?
On l'a fait dans le jardin, c'est-à-dire qu'on est parti de rien. On est parti... Moi, j'avais quelques bouts de texte, des vieux machins, mais pas beaucoup, quoi. Et puis, on n'avait pas de musique particulière. Moi, comme d'habitude, j'ai toujours, par miracle, toujours des vieux fonds de tiroir qui m'épatent, que je me dis « Ah ouais, ça, c'était bien, je devrais le retourner là-dessus ». Et puis on est parti d'une cuisine, on a beaucoup joué en fait, justement au rez-de-chaussée dans le jardin, quoi. On a joué pendant des semaines, pendant sans but véritable pour faire de la musique en fait. On a beaucoup fait de musique, on a fait de la recherche. Moi, j'avais envie de quelque chose de bien plus tordu. On a été dans des musiques bien plus tordues. Et puis finalement, on est revenu naturellement à une musique quand même... C'est sage, oui. Elle est belle. Elle est pas vraiment tordue. Elle est quand même... Il y a des tensions, mais... c'est très musical, quoi. On est revenu à être ce qu'on est, des musiciens. Et puis bon, bah, tant mieux. On s'est accepté tel qu'on était. Et puis c'était pas plus mal. Pourquoi vouloir absolument se donner un genre, quoi. Donc... les chansons, elles sont vraiment nées comme ça, quoi. À partir du moment où les morceaux prenaient figure vraiment en tant que morceaux, moi, je commençais à écrire, ça me donnait une idée. On se racontait des histoires, on parle beaucoup, on discute beaucoup, en fait. Hein. Une chanson comme Les Endurants, c'est une conversation que j'ai eue avec Daniel, par exemple, au temps des animaux, et que dont je me suis souvenu... Bah, au moment de faire l'album, au moment de faire In the Garden, je me suis souvenu de cette discussion où on s'était dit que finalement, pour en revenir par exemple aux journalistes, que tous ces cons, ils n'ont rien vécu, quoi. Et qu'on les enterrera tous, ces connards, et qu'en attendant, c'est vraiment fendu la gueule. Et que ma vie, malgré tout le pathos qu'ils font, moi je leur souhaite, finalement, tu vois, je leur souhaite d'avoir autant d'énergie que j'ai pu en avoir tout au long de ma vie, d'avoir pu déployer tout ce que j'ai pu déployer, d'avoir pu réussir aussi tout ce que j'ai pu réussir. Et même les échecs, ils sont souhaitables dans une vie, enfin, parce que ça fait une vie. Et ça ne fait pas une espèce de survie à poser comme un gland, quoi.
Oui, parce qu'on vous avait déjà enterré, enfin, plein de choses pas très désagréables, et on s'aperçoit qu'en 2007, vous nous sortez un bel album.
Oui, oui, bien sûr. Non, puis tu sais, selon le propos qu'ils ont envie d'avoir, on m'enterre ou alors on me ressuscite complètement. C'était même ça qui m'avait énervé sur les animaux. Bon, enfin bon.
Au-dessus de l'amour, plane un vent pour nous les vautours, les endurants, les résistants à la face du temps. Enfantin du soir au matin, ça nous va bien. C'est pas avec un six coups, mais avec six cordes pour le coup, qu'on avance en avalanche dans l'arène de la glu. On y laissera nos pompes et la crosse de nos fusils. Mon Goya ne nous peindra plus, y a longtemps qu'on l'a laissé pour foutu. Sur le pavé d'un enfer doré, les flammes de nos plaisirs brûlent encore au fond de bien des désirs. Il y aura toujours le sens du vent pour savoir contre quoi lutter. On y reconnaîtra les endurants aux flammes qu'ils ont sous leurs pieds. On remontera 100 fois la ruine sur nos habits, des villes entières qu'on y a construites pour les foutre en l'air avec appétit. On n'est pas prêt de sécher l'encre, notre navire n'est qu'un ventre où tout se digère, où tout s'exagère. La vie n'est qu'une passagère d'un élan beaucoup plus fort. Notre corps n'est qu'une artère, le boulevard de l'éternel est fort. Nous ne sommes que des hommes de fer sur lesquels glissent les pauvres guerres. Même les yeux ne peuvent nous suivre, quand ils se ferment, ils cessent de vivre, et notre rêve les engloutit. Au-dessus de l'amour, plane un vent pour nous, les vautours, les endurants, les résistants à la face du temps. Enfantin du soir au matin, ça nous va bien. Enfantin du soir au matin, ça nous va bien. Enfantin du soir au matin, ça nous va bien. Enfantin du soir au matin. Hey, ça nous va bien.
c'était les Endurants.
Alors un autre sujet qui me tient à cœur, vous avez, il y a une association, Je suis là, un collectif auquel vous avez adhéré. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Bah, c'est pas que je l'ai adhéré, c'est qu'il s'est formé chez moi. En fait, c'est un collectif qui est né sur le forum. C'est-à-dire que moi, il y a très longtemps, en 95, j'ai édité un petit recueil de poèmes qui s'appelait Je suis là. J'ai édité ça à 5000 exemplaires pour me faire plaisir à l'époque. Hein. Puis, évidemment, ça a été vendu à vitesse grand V. D'ailleurs, c'est un exploit dans ce pays de vendre 5000 recueils de poèmes comme ça. J'aurais pu en vendre 15 000, 20 000, 30 000 peut-être même, je sais pas. Mais je me suis arrêté là parce que, bon, voilà, j'avais fait. J'aime bien que les choses soient rares aussi, ça. C'est pas plus mal. Et donc, vu qu'il est épuisé depuis des années, il y a toujours des gens qui passaient sur le forum pour dire « Ah putain, où est-ce que je pourrais trouver ?» Je suis là, je cherche depuis 1000 ans, et ainsi de suite. Et puis à la fin, tout le monde se foutait de leur gueule au bout d'un moment, quoi, parce que les gens se connaissent sur un forum et il y a une communauté, quoi. Et puis pour se foutre de la gueule du nouveau qui venait de se pointer à poser la question... Il y a quelqu'un qui en a chanté un poème, en fait, de Je suis là. Il y a quelqu'un qui a mis un MP3 sur le forum avec, pour rigoler, un truc très simple, quoi, une guitare-voix, et puis il a chanté un de mes poèmes. Et moi, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est ça qu'il faut faire. Donc, j'aurais dit, écoutez, c'est super, on va faire ça, on va essayer de faire un disque. Vous allez chanter les poèmes et on va essayer de les produire du mieux qu'on peut sans une thune. C'est ce qu'on fait, quand même. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'on n'a pas une thune, personne n'a une thune à foutre là-dedans. Mais on se fait prêter des studios, on arrive à faire venir des bons musiciens gratos. Enfin, tout le monde participe, quoi. C'est pour ça que c'est très long à organiser aussi, parce que comme c'est des gens qui viennent de la France entière, il faut qu'ils soient tous dispo en même temps. Mais là, on en est arrivé aux 2/3 de la production quand même. On a tout pré-maquetté, et puis là, on en est aux 2/3 de l'enregistrement final, quoi. On a quand même bien avancé. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens qui sont venus proposer des trucs. Moi, j'ai fait un petit tri quand même. J'ai même pas eu à trier vraiment. J'ai juste dit au pire que bon, ils étaient bien gentils, mais qu'il fallait quand même être un peu sérieux. Et puis, on se retrouve avec un bel album qui a un peu un petit côté Starmania. Moi, j'aime bien. Tu sais, ils ont tous fait des musiques un peu 70, je sais pas, mais c'est marrant.
Et c'est de la musique, c'est eux qui l'ont fait totalement sur tes textes.
C'est ça. C'est eux qui font la musique, c'est eux qui chantent. Et puis après, moi, je les ai aidés j'ai joué le rôle de directeur artistique. Après, on a pré-maquetté tout ça ensemble à partir de leur musique. Moi, je leur disais, bon, ben voilà, tiens, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pas voulu interférer dans leur composition, ni changer les morceaux. Simplement, et essayer de les aider à faire le même boulot que moi, je fais avec les musiciens, en fait. De voir tout ce qu'on pouvait faire pour que ça soit bien. Pas mieux, tu vois, parce que le mieux est l'ennemi du bien, tu vois. Donc, j'ai essayé d'être un réalisateur très sobre, mais d'apporter quelque chose, quoi.
Alors, combien de groupes, je crois 13 environ, sur cet album ?
Ça c'est quand même... maintenant, il n'y en a plus que 10.
Hommes, femmes ?
Ah oui, il y a des femmes et des hommes. Il y a même deux filles qui chantent à cappella, qui font de l'opérette, en fait. Hein. C'est très bien ce qu'elles ont fait, c'est super marrant. Il y a vraiment tous les styles, il y a du rock, il y a de la chanson française très ponchi-chipon, il y a vraiment tout. C'est pour ça qu'elle est bien, cette compilation. C'est pour ça aussi que ça me fait penser à Starmania, parce que c'est un peu tout et n'importe quoi, mais tout est gentil, tu vois. Ils sont tous gentils, en fait, tu vois. Ouais, il y a un côté comme ça que j'aurais envie de mettre en scène, quoi. Et si on avait un jour les moyens, moi, je ferais bien un spectacle avec tous ces gens-là.
Il faudrait qu'on fasse un appel à mécènes, alors.
Bah ouais, pourquoi pas. Comme, tu vois, justement, tu me parlais tout à l'heure qu'on s'était rencontrés le jour où j'avais rencontré les Carpates. Bah, c'est des gens, après, je crois que c'était 6 mois plus tard, on m'a proposé de faire deux concerts dans un beau théâtre parisien, le théâtre du Palais Royal. Un vieux théâtre qui n'a pas changé depuis la Révolution, quoi, qui est trop mignon et tout ça. Moi, même si j'avais pas de groupe à l'époque, tu vois, je me suis dit, oh, quand même, je ne peux pas refuser ça. J'avais trop envie de jouer là, quoi. Et donc, j'ai rappelé les Carpates que j'avais rencontrés ce jour-là. Et je leur ai dit, bah, c'est l'occasion qu'on prépare mieux. Parce que, pour rappeler aux gens qui ne savent pas, c'est que ce jour-là, les Carpates, ils m'ont sauvé la vie. Parce que mes musiciens n'étaient pas venus. Je devais monter sur scène et c'est fini. Hein. Je devais monter sur scène et les Carpathes ont remplacé mes musiciens au pied levé sans connaître le répertoire. Donc ça nous avait quand même soudés dans une expérience super marrante, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et puis après, je me suis dit, bah voilà, l'occasion de faire quelque chose de mieux quand même avec ces mecs-là qui étaient bien, de retravailler quelque chose. Donc à l'époque, je les ai rappelés pour qu'on fasse un spectacle ensemble, un spectacle mélangé, mes chansons avec les leurs, et dans une espèce de petite mise en scène qu'on n'a pas vraiment assumée, mais c'était drôle justement. Qu'on n'assume rien de ce qu'on foutait, c'était, il y avait vraiment un côté plaisant. Moi, j'ai vraiment un bon souvenir de ça, et j'aimerais bien aller aujourd'hui plus dans ce sens-là, maintenant, dans une espèce de théâtralité des choses. J'en ai un peu marre de faire le jukebox, de me pointer, puis de faire mes chansons, puis de partir. C'est
justement cet album, il va sortir quand, si vous y arrivez?
L'album Je suis là, il va sortir quand? Bah ça, je veux pas m'avancer en fait. Parce que, comme je te disais, c'est une production qui est quand même... elle est sans moyens. Donc, il faut la disponibilité de tous les acteurs. C'est pas évident à organiser du tout, quoi. On y va un jour par un jour, quoi. Un jour tous les deux mois, un jour tous les trois mois.
Parce que, effectivement, j'ai vu les groupes, il y en a de tous les coins de la France.
Oui, c'est ça la difficulté, quoi, de réunir la disponibilité de tout le monde, quoi. Parce que tous ces gens à la bosse... Ou alors sont loin, ou ils n'ont pas l'argent, et puis voilà quoi.
Donc pas de date. On attendra.
Je pense que ça va prendre encore un an. J'espère que ça ne prendra pas plus, parce que là quand même, 3 ans pour faire un album, ça devient... ça devient...
Fou, hein.
Ouais, mais bon...
Alors quelle est votre actualité, hormis, bon, ce soir vous serez à l'espace Albert Camus, et puis c'est très bien parce que vous affichez complet. Quelle autre date pour ceux qui, malheureusement, ne pourront pas venir?
Là tu sais, c'est terrible parce que... je sais pas, parce que je retiens aucune date. Et puis après, on joue tout l'hiver, hein, on joue partout, un peu en France. Et même, moi, si des concerts tombent d'ici là, je les prends, quoi. J'ai vraiment envie de... De toute façon, j'ai envie. Et puis aussi, j'ai pas le choix. Il faut que je promeuve mon album, parce que celui-là, c'est moi qui l'ai produit. Donc, je peux pas faire que rentrer dans mon argent. C'est-à-dire que, au mieux, là, la perspective qui va se passer, c'est que je rembourse la banque. Mais ça me fait une belle chambre, moi, d'avoir remboursé la banque. C'est-à-dire que j'ai rien gagné.
Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait pourquoi tu as laissé tomber Warner?
Bah pour faire du syndicalisme, pour faire un peu de, pour être libre de parler sans qu'on m'accuse de défendre mon beefsteak ou ma situation. Parce que justement, comme j'ai attaqué tout à l'heure, je t'ai dit qu'on en avait besoin des majors, quoi. Je t'ai dit que même quand on est mano solo, et ben voilà, on s'autoproduit et puis on se ruine. Voilà pourquoi je l'ai fait, en fait, pour montrer aux gens, vous voyez, je me ruine. C'est un peu con, hein, c'est complètement maso, c'est banzai, mais tu vois, je sais pas, j'en ai eu marre de tous ces gens qui se trompent socialement sur ce qu'ils font, qui se rendent pas compte que tu vois, ils vont d'un côté militer pour le commerce équitable, ce qui est louable, et puis ils vont oublier que le commerce équitable, c'est partout qu'il faut le faire. C'est aussi avec les producteurs de tomates français, puis c'est aussi avec les producteurs de musique français. C'est l'exemple flagrant, enfin, que je dis tout le temps, quoi. Quand tu vas acheter un kilo de tomates à 1 euro dans un hypermarché, bah, tu sais que le paysan, il ne gagne pas sa vie, qu'il s'est fait étrangler, et puis que voilà, s'il ne les vend pas là, ils vont pourrir. Donc il n'a pas le choix, il a vendu ses tomates à 1 euro à perte, et puis on va être obligé de le compenser avec les sous de Bruxelles, et ainsi de suite. Nous, dans la musique, on n'a pas Bruxelles qui nous balance des trucs pour les quotas. Hein. C'est pas, par exemple aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, aujourd'hui, il y a déjà des espèces de ce qu'on peut englober, moi j'appelle ça un terme générique de licence globale, c'est-à-dire que, oui, nous on touche de l'argent sur les produits, sur le ton MD, là, j'ai touché, moi soi-disant, une part de ce que tu as payé quand tu l'as acheté, parce que c'est un CD vierge. Sauf que, elle est calculée comment? C'est ça, elle est calculée au produit de tes ventes et de tes passages radio. Donc encore une fois, c'est Johnny qui a touché là, mais c'est pas moi. Tu comprends, sur ton CD vierge. Et tout est comme ça. Donc demain, si on n'identifie pas les flux sur Internet des téléchargements, eh ben ils vont calculer les choses de la même manière, au prorata de nos ventes et de notre visibilité en télé et dans les radios. C'est-à-dire que donc 95% du paysage audiovisuel français ne va pas toucher une thune pour sa production et va se faire télécharger à tire l'ergot. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est eux les premiers qui ont quelque chose à perdre. avec un système pareil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront plus travailler. Moi, par exemple, si je n'ai pas une maison de 10, je ne peux pas travailler. Je ne sais pas ce que... Là, je ne vais pas faire un cri d'alarme, ce n'est pas du tout ça, quoi. Moi, je ne suis quand même pas encore un type à plaindre. Mais je ne sais pas, mon prochain album, je ne sais pas comment je le fais, en fait. Aller chez une majeure, mais pourquoi finalement aussi? Parce que j'ai beau les défendre, je ne suis pas en plein accord avec eux. Moi, je défends la production, si tu veux. Je défends le fait qu'il nous faille une production. Après, ce n'est pas les majeures telles qu'elles sont que je défends. Je ne défends pas un bloc comme ça, bêtement, quoi. C'est aussi pour ça que je suis parti, quoi. Tu vois, c'est parce qu'il y a énormément à critiquer. Mais ne cassons pas tout. Critiquons objectivement, constructivement, quoi. Se débarrasser de tout ça en juste téléchargeant et se justifier avec des discours anticapitalistes, là, c'est d'une grande bêtise, quoi. C'est d'une grande bêtise et c'est surtout pas être de gauche, en vérité. C'est ça que j'aimerais bien rappeler à pas mal de gens. Que la base d'être de gauche, c'est considérer que chaque travail mérite salaire. Et c'est quand même... une priorité, enfin, et qu'ensuite chaque travail doit permettre à l'individu de s'épanouir. C'est ça qui fait la différence avec la droite, qui elle, s'en fout de l'épanouissement de l'individu. Mais quand même, chaque travail mérite salaire. On peut pas dire je nique la capitale en foutant tous les prolos de chez Warner à la rue. Ça, c'est pas logique, quoi. Il faudrait que les gens prennent conscience de ça, quoi.
Ne sens-tu rien venir? C'est toujours le même message que le vent dépose à nos pieds. Ce n'est qu'un vent d'automne qui fait que les rues résonnent d'un parterre d'histoires jaunies, pas encore mortes mais déjà mal finies. Lâche, marcher dans ces rues où tout s'efface, se dire il n'y a rien de plus ou rien de moins. Qu'après tout, ça fait de la place pour demain. Je pourrais fouler du pied monticule de regrets desséchés, clabousser les flaques de drame sans même verser une larme. Sens-tu rien venir? Ne vois-tu pas que j'ai inversé le vent? Entrons dans l'hiver et je te garde un été. Les sentiments prennent la valeur du temps. Ce que l'automne abandonne n'est pas forcément la fin des amants. Ne sens-tu rien venir? C'est toujours le même message que le vent dépose à nos pieds. Ce n'est qu'un vent d'automne qui fait que les rues résonnent. Ne sens-tu rien venir? Ne sens-tu rien venir?
C'était « Ne sens-tu rien venir ?» Et qui accepterait de travailler gratuitement? Moi, j'accepterais pas de travailler gratuitement. C'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils téléchargent, puisque moi, je me bats personnellement contre le téléchargement. Je ne télécharge jamais rien. Et ça, je peux le dire. Alors, je sais aussi, il y a aussi des fois, on télécharge, certains me disent, je télécharge pour connaître et après, j'achète l'album. C'est possible, je suis d'accord dans ce cas-là.
Des gens qui te disent ça, mais ces gens-là sont forcément une minorité, puisque de toute façon, la baisse des ventes est de 40%. tous les trimestres. Donc, si ces gens-là... moi aussi, le premier, ça serait le meilleur point écoute que tu puisses trouver. C'est, de toute façon, il y a des avantages au téléchargement. Moi, je suis pas du tout en train de diaboliser l'outil, puisque je m'en sers. Je reconnais que je m'en sers. Je m'en sers pour découvrir. Et puis, il y a des choses que je pique, ouais, que je pique à des gens que je m'en fous. C'est vrai que je sais que je suis pas en train de les étrangler. J'étrangle pas la Warner quand je télécharge un film à la con de baston américain. J'en ai rien à foutre. De toute façon, j'aurais jamais été payé au cinéma pour l'avoir. Donc, et de la même manière, si je télécharge une musique qui me plaît, je vais acheter le disque derrière, effectivement. Parce que de toute façon, pour des mauvaises raisons que je vais exprimer, mais c'est des mauvaises raisons, je vais les exprimer quand même, mais de toute façon, un MP3, c'est pas satisfaisant.
Il y en a qui diront le contraire, hein, qui vous diront qu'il n'y a qu'une oreille avertie qui connaît le MP3.
Tant pis pour eux. Moi, ça me fait marrer quand même. Dans les années 80, on était à la course à la perfection du son. Tout le monde se payait des chaînes de la mort et tout le monde allait frimer, appeler son voisin, regarde ma chaîne et tout ça. Et puis aujourd'hui, juste parce que ça devient gratuit, on s'en fout complètement du son. Et puis on a un son complètement réduit dans les basses et dans les aigus, avec un espèce de souffle métallique derrière, et tout le monde s'en fout.
C'est décevant pour un musicien, parce que vous travaillez bien vos sons, vous faites du super son en salle, et après c'est mouliné caca dans un MP3.
Il y a toute une partie du mix qui disparaît. Alors tout le monde te dit que c'est des fréquences que l'oreille humaine n'entend pas, mais elles font partie des résonances. Tu vois, elles font partie de l'espace du son, c'est très important.
Pour terminer sur une note positive, quel serait le titre que tu nous conseillerais, qui pourrait être un coup de cœur de Mano Solo?
Oh, il y a quand même, maintenant ça... Ça doit avoir un an ou deux, mais j'avais vraiment flashé sur Bebo et Sigala. C'était la rencontre d'un chanteur de flamenco et d'un pianiste cubain. C'est vraiment un disque magnifique, quoi. Une douceur pas possible, de voyager. Le dernier disque qui m'a vraiment plu, c'était ça.
Et est-ce que tu envisages, à la sortie de cette tournée, de nous faire un DVD, Mano Solo? Ça serait peut-être bien.
Où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire un DVD? Qui va me le produire, ces DVD? Et pourquoi faire, puisque les gens ne l'achètent pas? Tu vois, on me pose toujours la question, c'est pour ça que je me demande même pourquoi faire un disque demain, puisque pour être quoi? Pour être sur une plateforme de téléchargement, moi ça ne me branche pas. Tu vois, il y a déjà des milliers de gens qui croient que c'est moi qui chante Je veux du soleil, parce que c'est proposé comme ça sur Internet. Tu vois, d'être dans un annuaire de téléchargement, il n'y a pas plus impersonnel, quoi. Moi, pour moi, c'est une vision d'horreur. Là, je vois que mon album ne se vend pas comme j'aurais voulu. Je vais donc dire à mon distributeur qu'effectivement, nous allons passer des accords avec les plateformes de téléchargement. Mais je n'avais pas envie, tu vois. J'avais envie de défendre l'objet disque. Parce que l'objet disque, pour moi, il représente la synergie dont j'ai besoin, de tous les gens dont j'ai besoin pour faire un album. Parce que je ne le fais jamais tout seul. Il y a des gens qui, pendant des années, m'écrivaient « Mano, donne-moi une adresse, que je t'envoie un chèque, je veux bien te payer à toi, mais pas à ces enfoirés de la major. » Mais je lui disais, mais t'es malade, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai fait tout seul l'album? Si tu m'envoies 15 euros, il va falloir que j'aille filer 1 euro à machin, 1 euro à Trucmuche, 1 euro à machin, à machinette, et tu vois, à tous les gens avec qui je l'ai fait. Je n'ai pas fait tout seul l'album. Et tous les gens ont le droit d'être payés, parce que sans eux, j'aurais pas gagné ma vie. Donc, moi, je ne peux pas gagner ma vie d'un côté en sachant que tous les gens qui m'ont permis de gagner ma vie, ils sont au chômage. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu vois, comment tu veux, je me sens bien. Moi, je me sentais bien avant d'être vecteur d'activité. Tu ne te sens pas comme un parasite, comme voudrait nous le dire Célière, puisque moi, quand je me pose quelque part, je suis vecteur d'activité. Quand je fais un disque, je déclenche de l'activité, je déclenche une masse salariale pas possible dans ce pays. Entre les imprimeurs, les fabricants de plastique, les salariés de partout, les vendeurs de magasins, tout le monde, les gens qui bossent dans les radios, les journalistes. T'imagines tout ce que ça déclenche à un artiste comme masse salariale dans ce pays. Donc, je sais plus où je voulais en venir.
Et si quelqu'un t'offrait cette vidéo, venait, te proposait de venir filmer un de tes spectacles pour aider un petit peu Mano Solo et tous ses musiciens?
Pourquoi faire, tu sais, pourquoi faire? Mais vraiment, je te réponds à ma question. Pourquoi faire? Tu vois, dans le contexte actuel, on se demande pourquoi faire. De toute façon, tu sais aussi, il y a des drôles de phénomènes. Les gens, ils viennent plus pour t'écouter, ils viennent pour te filmer. Ils viennent pour avec leur téléphone au bout de la main pendant tout le concert, oui, comme ça. Ou alors avec leur petit caméscope, et ils vont passer tout le concert, l'œil dans leur caméscope. Et après, ils vont leur mater chez eux, ils vont se dire « Ah merde, il y a un son pourri, ah merde !» Et puis voilà, ils n'ont rien vu du concert, et tu te demandes ce qu'ils sont venus faire. C'est-à-dire que Tu peux même pas l'en vouloir, c'est-à-dire que on a perdu la notion d'événement aujourd'hui. Tout le monde. Avant, la musique, c'était un événement, parce que il n'y avait pas. Avant le tourne-disque, tu vois, avant la radio, même du temps de la radio, des débuts de la radio, quoi. Dès que quelqu'un arrivait, deux musiciens arrivaient quelque part, ça créait un événement. On n'avait pas de la musique tous les jours. Il y avait dans les familles des gens qui apprenaient le solfège, et puis on avait des petits bouquins de chansons. Et on chantait en famille. C'était quelque chose d'événementiel à vivre. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils ont plus compris que c'est ça qu'il y a de bon dans la musique. C'est de le vivre. Au moment de le vivre, et non pas de garder des traces, d'emmagasiner, de voler quelque chose pour dire, ah ouais, je l'ai, les autres n'ont pas.
À la limite, il faudrait presque plus faire de disques, mais faire que des spectacles.
Mais c'est impossible. C'est impossible. De toute façon, un artiste français aussi, ça, c'est un autre leurre qu'on entretient. C'est-à-dire que, ouais, les artistes devraient vivre de la scène. Déjà, jusqu'à quel âge déjà on va aller monter sur scène? Et puis, en France, c'est pas possible. Moi, je voudrais bien aller jouer au Japon pendant 2-3 ans, et puis après, j'irai jouer en Afrique du Sud, ou j'en sais rien où, tu vois. Mais seulement, tout le monde s'en fout d'un chanteur français. Je suis pas un chanteur anglais, et puis je vais pas me mettre à chanter en anglais, parce que je sais pas parler l'anglais, puis je m'en branle. Donc, j'ai un tout petit marché, c'est la France, la Belgique, et puis la Suisse, des fois, et puis le Canada, une fois. Si les francopholies m'y amènent, sinon on n'a pas les moyens d'aller là-bas.
Alors on va terminer cet entretien avec votre dernier album, donc In the Garden. Quel est le titre que vous dédieriez à nos auditeurs?
J'aime bien la chanson Toujours le même tableau. Ouais, je pense que c'est celle qui correspond le plus à mon état d'esprit aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec ce que j'ai vécu. Et tout ça, de toute façon, c'est aussi une chanson où je règle des comptes, quoi. Tu sais, il y a toujours le même tableau. Il y a plusieurs chansons dans cet album. In the Garden, je règle des comptes. Les Endurants, je règle mes comptes. Et toujours le même tableau, c'est trois chansons qui veulent dire la même chose. C'est que je vous emmerde. Voilà ce que ça veut dire. Vous faites du pathos, torchez-vous avec, quoi.
Alors on terminera sur ces paroles, et puis on espère quand même que cet album va fonctionner. On va se charger de le promouvoir. Et puis je vous remercie, et puis longue route et bon courage pour tout ça.
Merci beaucoup.
Je ferai toujours le même tableau. Je raconterai toujours la même histoire. Ce n'est qu'une route, un chemin de gravier. Ce n'est qu'un arbre, une feuille dorée qui s'abandonne au vent. Une branche et de mes anges déposant leur vive lumière. Jusqu'à la fin des temps, des fils d'argent feront voyager le vent. J'aurai autant de sentiments qu'il y a eu de printemps. Je ferai toujours le même tableau, je raconterai toujours la même histoire. Mais il n'est pas de saison muette, je suis un arbre qui se déshabille. Tout nu devant l'hiver, quand je rigole, je me fendille. Et je reste debout. Ce n'est qu'une plaine comme le dos d'un chien, qu'un vent musclé vient balayer. C'est un soleil de plomb qui viendra tout brûler. C'est un rapace sur son poteau qui attend son déjeuner. Je ferai toujours le même tableau. Je raconterai toujours la même histoire. Des étés de sécheresse à boire, de l'encre noire, c'est la chaîne d'un Hercule de foie. La balançoire d'une vie qui pousse en silence, qui continue quand tout recommence. Pour chaque vie, un enfant nouveau. Je ferai toujours le même tableau, je raconterai toujours la même histoire. Les couleurs de la nature d'un homme n'ont pas deux fois la même chaleur. je suis là, j'écarte les bras pour qu'elle se pose sur moi. Tous ces mots à la recherche du beau, pollen d'épine dans un poème de Rameau. Je ferai toujours le même tableau, je raconterai toujours la même histoire.
C'était toujours le même tableau, extrait du dernier album de Mano Solo. Autre titre, In the Garden, extrait de l'album du même nom.
Je ne suis plus le poète, celui que j'aurais dû être. Les mots me sont sortis de la tête. Dans le monde des vivants, je ne suis qu'un homme méchant, mais épais comme une crevette. Maintenant que je me prends que des branlées, j'ai toujours ma grande gueule en goguette, et je pourrais vous en raconter. J'en ai plein des péniches, des cargaisons de boutries sans maison, des quintaux d'avatars super tristes. J'aurais pu être même Jésus-Christ, j'aurais pu construire des millions de rengaines, une pour chaque saison. J'aurais pu foutre la migraine à n'importe quel cafard à la con, mais j'aurais pas mis des coups de poing. Un bout de jardin, pas loin du périph, c'est là que je me sens bien, avec ma bataille en friche. Le marteau et l'enclume, j'aurais choisi la plume. C'est si léger qu'avec elle, je m'échappe sans tomber. Je ne dirais pas qu'il me pousse des ailes, mais rien que d'un souffle, elle me permet d'exister. Le ciel ne s'est pas effondré sur ma tête, mais à mes pieds, sur la machine à souffrir qui restait là à pourrir. Je ne suis plus le poète, celui que j'aurais dû être. Les mots me sont sortis de la tête. Je me lève chaque matin dans la victoire du quotidien. Un bout de jardin, pas loin du périph, c'est là que je me sens bien, avec ma bataille en friche.
C'était Mano Solo, auteur-compositeur-interprète, disparu le 10 janvier 2010. L'émission Parole en musique a souhaité lui rendre hommage en diffusant une interview réalisée avec lui en 2007. Parole en musique, l'émission des chansons francophones, mais pas que. Et c'est sur Couleur FM 97.1.